Cahors, 92.5.
Il est midi, soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h avec Anne-Rose Jankovic aux commandes. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avec à 12h30 un reportage que vous avez réalisé au chemin du Niglo. Ça se passe assez à Lourdes, c'est un centre spirituel pour les gens du voyage.
Exactement, un centre spirituel d'accueil pour les gens du voyage et les gitans qui existent à Lourdes depuis de nombreuses années. Et vous entendrez les explications et le témoignage du père José Maria de Antonio qui en est l'aumônier et le responsable.
On va rester à la Lourdes dans un instant avec votre invité avec ce concept hôtelier qui s'installe à Lourdes.
Oui, tout à fait. Le groupe Ramos lance un nouveau modèle d'hébergement spirituel. Effectivement, ça se passe à Lourdes, à quelques pas du sanctuaire. Et nous aurons en ligne dans quelques instants Corentin Aglaor, qui est le directeur général du groupe Ramos, qui nous présentera ce nouveau concept.
Dans cette émission, direction Bayonne, pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, l'agenda béarnais. Pour cela, je serai en ligne dans un instant avec Nathalie Chambon, c'est la responsable de la communication pour ce diocèse. Mais pour le moment, on accueille Ambre Pagès, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Ambre est avec nous pour les titres qui seront développés tout à l'heure à midi.
La région placée sous vigilance jaune orage en Occitanie. L'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot sont concernés par le risque d'averses et d'orages ce jeudi. Une dégradation qui ne devrait pas se maintenir au cours du week-end. Lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. C'est l'initiative des commerces et des associations de Villefranche-de-Rouergue. Une opération a été lancée hier et perdurera jusqu'au 30 juin afin de récolter des dons pour la cause animale.
Merci Ambre Pagès. Voilà pour les titres à la une. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer tout ça dans le journal. À 12h02, on prend la direction de Bayonne.
Présence, place du Capitole, 97.9.
La vie dans les diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence, direction Bayonne, aujourd'hui avec Nathalie Chambon, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. On va détailler une partie de l'agenda béarnais. Cet agenda, pour débuter, nous amène à Morlas. C'est pas très loin de Pau pour cette lecture priante de l'évangile selon saint Matthieu.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce soir, c'est à la maison paroissiale de Morlas de 18h à 20h. Et c'est une lectio divina, donc de ce récit de l'évangile de saint Matthieu qui est animé par Anne Duteil. Petit temps de réflexion, de catéchisme et aussi temps fraternel. C'est à la maison paroissiale de Morlas ce soir.
On poursuit cet agenda avec ce pèlerinage provincial des familles. C'est pour les vocations. Alors c'est ce 1er mai, mais c'est important d'en parler.
Oui, tout à fait. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont sur le site diocèse64.org. Un pèlerinage des familles pour les vocations. Monseigneur Ayen ne cesse de répéter que la prière des familles en particulier est très importante pour que nous puissions avoir des vocations religieuses, des vocations sacerdotales. C'est à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Il y aura bien sûr la messe présidée par notre évêque, mais également une conférence du père Vincent Brénard, qui est l'ancien directeur du service national de la pastorale des jeunes à la conférence des évêques de France. C'est un parcours qui est tout à fait possible en poussette, avec quelques béquilles pour les plus âgés. Vraiment vivre ce temps de prière et de partage et de pèlerinage en famille le 1er mai pour prier pour les vocations pour notre diocèse, mais bien sûr pour également tous les diocèses.
Voilà, et on se renseigne donc sur diocèse64.org. Il y a même un QR code pour pouvoir suivre le programme et s'inscrire en ligne.
Tout à fait.
On poursuit cet agenda avec l'actualité de la communauté des béatitudes.
Oui, c'est vraiment la vocation de prier pour le peuple juif, la vocation de cette communauté des béatitudes de Naï, qui vous propose vendredi 1er mai une prière familiale d'entrée dans le Shabbat. Alors la prière commence à 19h, mais il est important et indispensable de venir à 18h15 pour avoir ce petit temps de préparation et d'explication. C'est à la communauté des béatitudes de Naï ce vendredi 1er mai.
On poursuit cet agenda avec cette conférence qui est proposée par la BCR de Pau, une conférence qui s'intitule « La foi chrétienne en Afrique de l'Ouest ».
Oui, c'est le père Sylvain Dansou que nous connaissons bien à Pau, le curé de la paroisse de la Sainte Famille, qui propose mercredi 6 mai à 18h30 cette conférence. Donc, au retour justement du voyage du pape Léon XIV en Afrique, important hein, de mieux comprendre et de mieux connaître la foi chrétienne en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau, avenue Édouard VII, le 6 mai à 18h30.
Merci Nathalie Chambon. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron.
Présence.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Présence midi en direct avec maintenant Anne-Rose Jankovic et son invité. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles. Bonjour Corentin Aglaor.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du groupe Ramos. Vous êtes en ligne avec nous ce midi pour nous parler d'un nouvel hôtel lancé par le groupe Ramos. Un hôtel qui vient d'ouvrir ses portes à Lourdes, Domus Hôtel. Alors la ville de Lourdes ne manque pas hein, d'hôtel, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que cet hôtel qui se présente comme un nouveau modèle d'hébergement spirituel, hein, ce sont vraiment les mots que vous employez dans le dossier de présentation. Qu'est-ce que ce nouvel hôtel promet à votre clientèle ?
Alors, le Domus Hostel est né d'une volonté d'attirer des nouveaux pèlerins plus jeunes pour vivre le pèlerinage à Lourdes. Notre modèle est un modèle qui offre un hébergement accessible avec la location non pas sur le format de nuitée à la chambre, mais une nuitée au lit. Ainsi, il y a une vocation à partager des espaces communs et à se réunir autour de la recherche de spiritualité.
Ça ressemble donc finalement à ce qu'on peut voir sur, par exemple, les chemins de Saint-Jacques comme des gîtes d'étape, en fait.
En effet, on s'en rapproche à ceci près que nous avons voulu, dans le cadre de la rénovation de l'hôtel de l'Étoile, offrir une dimension esthétique très très particulière avec un attachement à la chaleur de l'église et de ce qu'elle reflète. Et donc on a des espaces confortables, généreux pour bien vivre ensemble.
Dans le dossier de présentation, vous parlez d'un hôtel fidèle aux valeurs chrétiennes. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? On entend bien là des lieux qui vont encourager les échanges, donc probablement un souhait aussi de créer des liens fraternels, mais ça suffit pas sans doute pour qu'un hôtel soit un lieu de promotion des valeurs chrétiennes.
Tout à fait, vous avez bien raison. Le Domus Hostel, donc l'Étoile, est le premier hôtel d'une chaîne que nous allons développer sur Lourdes, mais pas que, et qui est basé sur donc effectivement des principes proches de la doctrine sociale de l'Église, et notamment en essayant de pratiquer des tarifs les plus justes possibles. Quand j'exprime juste, je signifie que dans nos hôtels, il y a la possibilité de dormir pour 9,90 € la nuit, mais également pour 60 € la nuit. C'est-à-dire qu'on a un éventail qui permet à tout le monde de pouvoir aller vivre son personnage avec une vraie... on essaie de casser la barrière économique. Ça, c'est le premier point.
Alors, pour 9 €, pour 9 € on est bien d'accord qu'on a accès à un lit, en fait, sans drap, sans linge de toilette.
C'est un lit dans lequel vous avez les draps, une couette confortable, mais effectivement, vous n'avez pas le linge de toilette qui est dans le cadre, qui est optionnel pour 3 €.
Est-ce que, pour mettre les pieds un peu dans le plat, est-ce que vous misez vraiment sur ce pari-là, alors que on sait bien que, par exemple, les coûts des bagages sont extrêmement élevés et ne cessent d'augmenter. Vous croyez vraiment que votre clientèle, les pèlerins, ils vont s'encombrer d'encore plus de bagages, du linge de toilette, etc.
Tout à fait. Vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que nous, on le propose. Si vous voulez, c'était
donc 9 euros, c'est le prix de base sans option.
Voilà, exactement. C'est un prêt de base sans option. Alors, même avec l'option où votre lit est fait, on change vos draps, vous avez votre serviette, enfin votre linge de bain, ainsi qu'un petit rafraîchissement à votre arrivée. Nous sommes à 15 euros dans cette formule. Donc vous voyez qu'on reste quand même tout à fait raisonnable. L'idée, c'était de proposer quelque chose à la carte pour encore une fois essayer d'être le plus juste. Et je me permets de rajouter que dans notre chaîne, nous ne pratiquerons pas, et c'est un engagement ferme, ce qu'on appelle le yield management. C'est-à-dire que nos tarifs ne vont pas varier au cours de l'année. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, les prix annoncés seront les mêmes.
Vous parliez tout à l'heure de la d'une population plus jeune que vous avez envie d'accueillir hein, dans cet hôtel, qui est le premier donc d'une longue série, si je vous ai bien compris. Comment vous allez les rejoindre? Déjà, comment vous faites la promotion là de cette proposition pour les jeunes pèlerins? Déjà, faut qu'ils aient envie de venir à Lourdes.
Vous avez raison, et pour ça, je me sers de mon expérience personnelle, puisque pour ma part, ce projet est né dans le cadre de la préparation au mariage avec mon épouse, et où on a su me parler, m'accompagner. Et donc nous, on va, via les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui un incontournable du développement de la foi catholique, essayer de présenter l'offre et de pouvoir faire adhérer à notre projet et nous rejoindre. L'idée, ce n'est pas, et c'est ce que j'aime dire, l'idée, ce n'est pas de récupérer tous les pèlerins actuels. Non, c'est d'augmenter la fréquentation et de faire découvrir justement à des personnes qui n'osent pas ou qui n'ont jamais fait ce qu'est le pèlerinage.
L'hôtel est situé où par rapport au sanctuaire de Lourdes ?
Alors, l'hôtel est situé route de Pau, donc il surplombe le sanctuaire. Il n'est pas dans le cœur, dans le cœur de la ville, mais nous avons une offre de restauration, petit déjeuner et pour le soir, ainsi que des plats emportés. Et il y a toutes les commodités aux alentours.
En termes d'embauche, et ce sera ma dernière question sur cet hôtel. L'hôtel va employer combien de personnes ? Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire ?
Oui, tout à fait. Donc l'hôtel emploie actuellement 5 collaborateurs et durant l'été, nous monterons à 8 collaborateurs. Et ce sera, pour un cas de déploiement, notre moyenne de nombre de personnel, ce qui veut dire que sur la ville de Lourdes, nous aurons une quarantaine de personnes d'ici à horizon 2028.
Voilà, et pour l'heure, donc, eh bien, dans l'ancien hôtel de l'Étoile, qui est donc aujourd'hui Domus Hôtel, il y a donc 60 chambres avec des tarifs donc, qui commencent à partir de 9 euros et puis ensuite des options qui sont disponibles. Merci beaucoup, Corentin Aglaor, pour vos réponses.
Merci à vous.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous, puisque dans un instant, eh bien, on reste à Lourdes, direction le chemin du Niglos, ce centre spirituel.
Exactement, on reste route de Pau aussi.
Ben voilà, ça n'allait pas très loin. Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bon appétit à 12h19 minutes, la suite de Présence Midi. Dans un instant, c'est Ambre Pagès qui nous rejoint pour le journal régional. Et puis à partir de 12h45, direction les Pyrénées avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Et puis juste avant, nous prendrons la direction du chemin du Niglo. C'est ce centre spirituel pour les gens du voyage. Anne-Rose Jankovic en reportage là-bas à Lourdes.
Présence dans la cité mariale 96.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, voilà la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
La vie en rose, Édith Piaf à la mi-journée. Alors, avec un petit peu d'avance, on retrouve maintenant Ambre Pagès, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. On retrouve Ambre pour le journal régional, le journal de la mi-journée.
Bonjour à tous, une venue qui était attendue par les élus locaux. Le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que trois ministres sont de visite à Toulouse aujourd'hui de 11h30 jusqu'à 16h environ. Le sujet principal de ce déplacement concerne la nouvelle ligne à grande vitesse du Sud-Ouest. Un projet d'aménagement important dans la région mais qui connaît d'importantes difficultés pour son financement et sa réalisation. Le Premier ministre devrait apporter des réponses et échangera avec les parties prenantes à la préfecture de la Haute-Garonne à Toulouse. Par la suite, la cité administrative sera inaugurée et un entretien avec Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, est prévu. La conférence des évêques de France a annoncé dans un communiqué publié hier la possible venue du pape Léon XIV en septembre. Suite à plusieurs sollicitations de la part d'évêques pour venir en France, le cardinal Jean-Marc Aveline a officiellement invité le Saint-Père. Une invitation que le président de la République Emmanuel Macron avait appuyée lors de sa visite à Rome le 10 avril dernier. Pour le moment, le Saint-Siège n'a pas confirmé ce voyage apostolique qui devrait se dérouler à Paris et Lourdes. Hier matin, Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement et responsable de France 2030, était de visite dans le Gers pour échanger avec les acteurs économiques du département. Plusieurs entreprises bénéficiaires du plan d'investissement ont ouvert leurs portes à Bruno Bonnel. L'homme politique a salué l'entreprise Ginov, qui fabrique des robots de levage remplaçant les ponts élévateurs, et souhaite encourager les start-up et l'innovation locale pour participer à la souveraineté du pays. Un arrêté a été signé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 6 mai à Tarbes, afin d'interdire les rassemblements festifs musicaux non autorisés, ainsi que le transport de matériel sonore sur l'ensemble du département pour le week-end du 8 mai. Cette mesure est effective à partir du jeudi 7 mai à 19h jusqu'au lundi 11 mai à 9h, et vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Et enfin, en Aveyron, le rapporteur public préconise une annulation totale ou partielle des élections municipales de mars 2026 à Cap de Nagar. Hier, le recours en annulation déposé par l'équipe sortante contre l'élection de la liste conduite par Christophe Pourcel était examiné par le tribunal administratif de Toulouse. Celle-ci rendra sa décision définitive sous 15 jours, soit au plus tard le 21 mai 2026.
Merci Ambre Pagès. Voilà pour l'actu régionale. Merci à Ambre qui est avec nous et qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Direction les Pyrénées avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. C'est Anne Lasserre qui sera avec nous, mais pour le moment elle est toujours avec nous. C'est maintenant Anne-Rose Jankovic. Direction Lourdes et plus précisément direction le chemin du Niglo.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie 92.5.
Bonjour Corentin Aglaor.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du groupe Ramos. Vous êtes en ligne avec nous ce midi pour nous parler d'un nouvel hôtel lancé par le groupe Ramos. Un hôtel qui vient d'ouvrir ses portes à Lourdes, Domus Hôtel. Alors la ville de Lourdes ne manque pas d'hôtel, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que cet hôtel qui se présente comme un nouveau modèle d'hébergement spirituel, hein, ce sont vraiment les mots que vous employez dans le dossier de présentation. Qu'est-ce que ce nouvel hôtel promet à votre clientèle?
Alors, le Domus Hostel...
Voilà, petit problème technique, vous l'avez constaté. Petit problème avec l'informatique. Vous venez de réentendre le son qu'Arnaud Jankovic a fait. Eh bien, écoutez, on va réparer tout ça et on revient dans un instant.
J'oublie ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublie qu'on est frères, belle Corrèze charmée.
Et ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol,
un petit coup de gnole,
les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre,
vue sur les monétières.
C'est pire qu'un testament.
Les trois cafés gourmands à l'instant avec à nos souvenirs. Voilà, on a réparé notre machine, tout va bien. On retrouve en reportage Dan-Rose Jankovic qu'elle a réalisé ce matin à Lourdes au chemin du Niclo.
Présence à Figeac 97.7.
Bonjour Père D'Antonio.
Oui, bonjour.
Alors, vous nous accueillez aujourd'hui, route de Pau à Lourdes, dans ce bâtiment, dans ce lieu qui s'appelle le chemin du Niglo. D'abord, peut-être qu'on peut expliquer le nom chemin du Niglo. Quel est ce nom et pour qui est ce lieu?
Alors, le chemin du Niglo, ça vient d'une vieille légende gitane. Voilà, quand la Sainte Famille a quitté Israël, la Palestine, pour aller en Égypte. Mmh. Mais ils sont partis, Joseph, qui tirait Enan, Marie, qui portait l'enfant. Voilà. Et évidemment, c'était des pauvres qui sont partis. Et ils étaient un peu perdus. Même Joseph et la Sainte Famille, ils ont été insultés pendant le chemin. Mais une fois, il faisait très chaud, et il avait une famille gitane qui était par là. Et alors, ils ont vu que, voilà, un peu pas trop loin, il y avait une famille qui était là, qu'il avait un enfant, un petit bébé, qui était rouge de chaleur, qu'il avait des oiseaux qui venaient et avaient le bec pour porter une goutte d'eau à l'enfant, et d'autres qui battaient les ailes à côté de l'enfant pour lui donner de l'air. Et alors, quand ils ont vu ça, cette famille gitane s'est approchée. Et alors, ils ont trouvé des gens qui étaient encore plus pauvres qu'eux. Mmh. Et les gitans, ils ont dit, on part ensemble. Et alors, ils ont fait un bout de chemin ensemble. Et à un certain moment, avant d'arriver en Égypte, ils se sont séparés. Et Marie a dit au chef de cette famille, lui a dit, voilà, tu ne le sais pas, mais tu as aidé, tu as sauvé les fils de Dieu. Et en remerciement, tu trouveras toujours la nourriture. Nous voulons que notre niglo, notre maison, notre accueil, soit un accueil, un chemin qui amènera la personne vers Dieu.
Et donc, voilà. Le hérisson, c'est l'emblème, des gens du voyage des gitans et l'emblème de ce lieu. Voilà. Et niglo, ça veut dire hérisson.
Voilà. Il y a le mot chemin. Pourquoi ? De la même manière que l'animal laisse une trace, un chemin, donc c'est le chemin du niglo.
Voilà. Et ici, dans ce chemin du Niglo, à Lourdes, vous accueillez depuis déjà des années maintenant, vous allez nous dire exactement depuis quand, mais ça fait très longtemps, vous accueillez des gens du voyage, des gitans qui sont de passage à Lourdes ou qui vivent aux alentours, c'est ça?
Alors, ces services d'accueil, c'est un accueil spirituel. Ouais. Ici, et si les gens viennent de l'argent, non, on n'a pas. Voilà. Ici, c'est un accueil spirituel. Et cet accueil existe depuis 2003.
C'est vous qui l'avez créé ?
Alors, à l'origine, il y a eu un diacre permanent de Montauban, Claude d'Artène, avec une grande barbe, on dirait un gitan, vraiment un gitan. Et pourtant, c'était un Belge né au Congo belge.
Pas gitan du tout. Mais il avait compris la nécessité de proposer une spiritualité pour ces gens du voyage.
Il était engagé dans les Prados de Lyon, et c'est ça qui l'a fait découvrir un peu ce monde des pauvres, que lui connaissait déjà, parce que lui-même, il a vécu une certaine pauvreté, dans ce sens qu'il a été obligé de quitter le Congo, comme les gens d'Algérie, les que nous connaissons les pieds noirs. Et ça, ça fait toujours un certain déchirement, quand même. Hein. Bon, donc, alors lui, il connaissait une famille des Gadjés. Les Gadjés, c'est les non-gitans. Un couple de déjà gagés de Lourdes. Et alors, tous les trois, c'est le couple, ces diacres et moi, sont venus me trouver parce qu'il faut toujours un prêtre. Dans l'église, s'il n'y a pas un prêtre, ça ne marche pas. Bon, je sais. Bon, et me proposer ça, j'ai dit bon, d'accord. Et nous avons rencontré Monseigneur Perrier. Et alors, Monsieur Perrier avait tout de suite, il a sauté sur l'idée, c'était magnifique, voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'y vit concrètement ici? On a bien compris, c'est un lieu d'accueil, l'accueil c'est vraiment le maître mot, un lieu d'accueil spirituel, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça se passe comment? Vous êtes là quel jour? Qui peut venir? Est-ce que c'est réservé aux gitans et aux gens du voyage?
Mais les gitans, on n'est pas racistes. Non. C'est vrai que voilà, le monde gitan et le monde gadjé, voilà, c'est ces deux mondes qui vivent en parallèle. Il y a des passerelles, voilà, mais en parallèle. Chacun a évolué à sa manière, bien ou mal. Et bien, donc, les gadjés se méfient des gitans. Mais ça, c'est on le sait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le gitan se méfie des gadjés.
C'est donnant-donnant.
C'est voilà, c'est normal. Hein. Mais ici, on a fait un accueil, c'est-à-dire, nous avons pas mal des gitans, des voyageurs, parce que tous ne sont pas gitans. Les gitans, ce sont ceux qui viennent d'Espagne. Ici, c'est des manouches. Il ne faut pas les confondre.
Mais tout ça, finalement, ce sont juste des mots qui changent. Concrètement, oui, ça ne change pas tellement.
Oui, mais c'est comme chez nous, il y a des Espagnols, des Portugais, des Italiens et des Allemands. Chez eux, il y a des manouches, des Indis, des Roms, des Gitanos. C'est la même race, si on peut dire, évidemment. Mais il y a quand même des traditions et des langues qui ne sont pas les mêmes. Donc ici, nous... On reçoit, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir, tout simplement, parce qu'ils ont vu les drapeaux gitans à la porte, oui. Parce qu'ils ont entendu parler de Niglo. Et alors, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, normalement, la tradition, c'était un café et des madeleines. Mais, et après, on parle, on discute. On peut arriver, même on peut manger ensemble, on peut faire une grillade, enfin, j'en sais rien. Mais c'est l'accueil. Il faut que les voyageurs qui viennent ici se retrouvent, se trouvent accueillis. Il est chez lui.
C'est ça qu'ils viennent vraiment chercher. Ils ont besoin juste d'un lieu où ils se sentent chez eux et où ils peuvent éventuellement raconter leur histoire, où ils ont besoin d'être écoutés. C'est vraiment ça la demande?
C'est ça, c'est tout à fait ça.
C'est simple, en fait.
Mais c'est très simple. C'est-à-dire, ici, au fond... ma présence à moi ou la présence des gens qui assurent les permanences, bien, on écoute. On dit rien, pratiquement on dit rien, on écoute. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils parlent, nous, on partage leur joie ou leur peine, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, maladies dans les familles, des décès dans les familles, et viennent partager un peu leur peine, leur joie avec nous. Mmh. Et donc, moi, comme je dis aux gens qui font la permanence, il faut pas poser des questions, il faut écouter et partager leur joie ou leur peine. Mmh. C'est tout.
Depuis donc des années que vous êtes engagé dans cette mission, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous touche dans cette mission? Pourquoi vous continuez? Pourquoi c'est important pour vous?
Eh bien, ça m'a donné quoi? Ça m'a donné de perdre une faculté des prêtres habituellement, c'est-à-dire parler trop. parler trop. Souvent, dans les accueils que nous faisons, on parle, parce que nous, on connaît les droits, on connaît la morale, on connaît la théologie, on connaît tout, et on parle. Et alors, cette fréquentation de ce monde des pauvres, non pas d'argent, parce qu'il y a des gens du voyage qui ont beaucoup d'argent, qui n'importe quoi de nous, mais il y a des gens qui sont pauvres, dans ce sens, par exemple, ils sont incapables de lire, d'écrire, de partager un peu leur joie avec les autres, parce qu'ils ne savent pas, hein. Ils ont une certaine timidité dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Mais on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On dira, ah, les Arabes et les Gitans, ils sont ceci et cela. Sauf, il y en a un qui habite dans mon bloc, au-dessus de chez moi. Lui, il est bien. Mais oui, lui, il est bien parce qu'on le connaît. Mais lui, il est comme les autres.
Alors, ici, il y a la messe qui est célébrée une fois par semaine, le samedi. Ça. Est-ce que des personnes qui ne sont ni gens du voyage, ni gitans, peuvent venir prier avec eux, justement? Peut-être que prier ensemble, c'est la première porte d'entrée pour se connaître.
Oui. Normalement, tous les samedis, à 15h30, nous avons le chapelet. Mmh. C'est le chapelet de la grotte que nous recevons par la radio. Et à 16h, on a la messe. Bon, à cette messe, normalement, il y a un groupe, ça dépend le groupe, des gens de voyage. Bon, mais des gens de voyage, qu'on pourrait dire terre et lourde. Mais il y a des gens qui viennent de Pau, des gens qui viennent de Toulouse, ça dépend, ou des gens de passage. Mais chaque fois que nous avons fait un événement un peu important, genre présence de l'évêque, un évêque, ça attire le client quand même, hein, ça. Ça, oui. Moi, j'attire un petit groupe, mais si l'évêque vient, ça, on remplit la chapelle tout de suite. Bon, il faudrait qu'il vienne tous les samedis. Bon.
Comme il écoute Radio Présence, il va le savoir.
Voilà. Voilà. Mais il y a toujours nous, dans ces gros événements que nous faisons, que nous, nous avons pu faire pour Noël, peut-être pour la fête, je ne sais pas, pour des fêtes un peu comme ça, assez importantes dans l'Église, et, mais il y a des gens qui viennent, qui sont des amis, des gens de voyage.
Voilà. Et ça, c'est vraiment ouvert à toute personne de bonne volonté.
Oui, oui, oui. Et on ne fait pas de quête non plus. Hein. Donc, c'est assez important quand même, c'est bien.
C'est important pour vous de le dire. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien, mais combien de personnes, du coup, passent ici au chemin du Niglo chaque année ou chaque semaine? Enfin, est-ce que vous savez combien de personnes vous accueillez entre celles qui habitent aux alentours et qui viennent par, voilà, de manière régulière et qui sont des habitués, et puis les personnes de passage qui viennent aussi peut-être à l'occasion de pèlerinages importants au sanctuaire de Lourdes?
C'est très difficile de chiffrer ça, parce que on peut dire qu'il y a un noyau sur Lourdes où il y a une dizaine de personnes.
Oui.
Donc là, dans cette dizaine, il y a toujours 5 ou 6 qui viennent le samedi. Après, C'est variable. Mais nous, on accueille. Nous, les chiffres, pour nous, ça n'a pas d'importance. Moi, venir ici, à une permanence en semaine, ou les samedis, si la matinée, il n'y a personne, c'est pas grave. Je suis là à 9h du matin, peut-être personne ne viendra jusqu'à midi, ou même ils ne viendront plus. Personne ne viendra jusqu'à 15h pour les chapelets. Mais moi, pour moi, ce n'est pas un temps perdu, parce que pendant ces moments-là, je peux prier, je prie avec eux, même s'ils ne sont pas là présents, mais ils sont présents dans mon cœur, dans ma vie de prêtre. Donc je prie avec eux, je peux préparer du travail, je ne sais pas, je travaille, je ne me sens pas seul.
Ah bah ça, c'est important. Alors, ma dernière question, on est route de Pau, je l'ai dit, mais on est tout près du sanctuaire. Entre le sanctuaire et le chemin du Niglo, finalement, il y a le Carmel. Alors, vous ne voyez pas le sanctuaire, mais vous avez comme voisine les Carmélites. Donc, le sanctuaire est vraiment tout près. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que Lourdes apporte à ces gens-là? Pourquoi ils sont attachés à Lourdes?
Oui, ils sont attachés à Lourdes parce qu'il y a la Sainte et la Petite Sainte. La Sainte, c'est Marie.
Qui est important, vraiment, qui est très importante dans leur spiritualité.
Ah, c'était pour eux, c'est très important, c'est important. Et la petite sainte, c'est Bernadette. Et c'est ça qui les attire. Il faut, voilà, tu as vu là qu'on avait des cartes postales avec Notre-Dame et des Gitans. C'est très important pour eux. Cette Vierge des Gitans, il a été faite après la guerre, en 45 ou 46. Pourquoi? Parce qu'il avait un camion de l'armée américaine avec un chauffeur ivre qui a foncé sur une caravane, qui a explosé, feu. Mais personne de la famille a été blessé. Et alors, en remerciement, le gitan a demandé à un ami de faire une statue de Notre-Dame. Voilà, Notre-Dame des Gitans, qui était d'abord dans cette église, et qu'actuellement, c'est Notre-Dame des Gitans, et que chaque année, change de région apostolique. C'est une Vierge itinérante. Il y a, la semaine prochaine, je crois la date, je me rappelle, si la semaine prochaine, c'est les pèlerinages aux Saintes, les Saintes Marie de la Mer. Mais c'est très important pour eux. Le pèlerinage, pour eux, c'est un moment fort dans leur foi, dans leur pratique religieuse.
Et oui, parce qu'ils se mettent en chemin, et c'est toute leur vie de se mettre en chemin.
Voilà. Ce sont les fils du vent, ils marchent, ils ne peuvent pas rester sans bouger. Voilà. Il faut se mettre en chemin. Et voilà, et les chemins du Niglo les aident dans ces chemins de la rue.
Voilà, et le chemin du Niglo, un bâtiment alors qu'on ne peut pas louper, route de Pau, c'est écrit en gros, en rouge sur la façade blanche. Voilà, il y a deux drapeaux, celui de Gibraltar et celui des Gitans. Voilà, et on peut venir vous y rencontrer et découvrir la communauté.
Ici, on n'est pas là. Il suffit de donner un coup de téléphone et dans 10 minutes, il y aura quelqu'un pour vous accueillir.
Voilà, un lieu d'accueil, route de Pau à Lourdes. Merci beaucoup, Père D'Antonio.
Et merci Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé ce reportage. C'était ce matin, donc, à Lourdes. Allez, la suite de cette émission, direction les Pyrénées. On va vraiment prendre de l'altitude avec maintenant Anne Lasserre et Philippe Subercaz. Et puis juste après, à 13h, c'est l'actualité nationale et internationale. Très bon appétit à vous.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Chaque semaine, nous sommes là, fidèles au rendez-vous, quoi. 7 ans, hein, on avait dit la semaine dernière, à peu près.
Oui, 7 ans minimum.
Et vous aviez d'ailleurs écrit un livre où vous aviez compilé certaines de vos chroniques que vous aviez fait à la radio.
Oui, une anthologie qui m'avait été demandée par les éditions Kern, 103 écrivains.
Voilà.
Et justement, je parlais de Maurice Druon, que nous avons évoqué il y a...
Quelques semaines.
Peut-être 2 semaines.
2 semaines. Alors aujourd'hui, nous allons, vous nous l'avez dit la semaine dernière, à Gavarnie et à Barège, où nous apercevons le duc de Montpensier. Nous prenons donc cette fameuse machine que tout le monde nous envie, c'est la machine à remonter le temps, puisque nous avons sélectionné la date de 1843.
Et en plus, Philippe, nous accompagnerons un adolescent, Alphonse Blaquière, venu dans les Pyrénées avec son grand-père.
Comme cela d'ailleurs se faisait alors. Il parcourt les Pyrénées à cheval, avec certificat de douane à l'appui pour éviter les trafics de chevaux.
Oui, ça je l'ai découvert
dans le livre.
Voilà. Et à Barège, le jeune garçon aperçoit le duc de Montpensier, le fils cadet du roi Louis-Philippe Ier, qui loge dans la maison voisine.
Ah, il faut rappeler que c'est la grande époque des stations thermales, vous nous l'aviez dit dans la chronique qu'on avait faite sur Radio Présence.
Oui, que vous appeliez...
Perception des Pyrénées à travers le temps.
D'où vous aviez réduit à PPT.
PPT, c'est ça, oui. Perception des Pyrénées à travers le temps, PPT. C'était notre chronique qui était absolument... C'est, je crois, une thèse que vous aviez fait, non, une époque.
Oui. Hein? Voilà, j'avais travaillé sur l'image des Pyrénées.
Et on s'est aperçu effectivement que les Pyrénées, à l'époque, on ne les gravissait pas. On en avait même peur.
Voilà.
On restait qu'en bas.
Oui, à la fin du 18e, en tout cas, c'était comme ça.
Voilà. Et puis, après...
Peu à peu, on a levé les yeux.
Début du 20e siècle, on s'est aperçu que ça glissait quand il y avait de la neige. Et aujourd'hui, on sait comment ils sont devenus les Pyrénées. C'est devenu un grand parc d'attractions.
Exactement, Philippe. Que je déplore un peu.
Alors, il faut rappeler que c'est la grande époque des stations thermales. Effectivement, avant d'aller faire du ski, on venait se soigner dans toutes les villes thermales des Pyrénées, qui attirent donc effectivement le grand monde. Et je rappelle d'ailleurs que Bagnères, on l'appelait
le petit Paris.
Petit Paris. On a peut-être oublié ça.
Tous les grands de ce monde, de l'Europe entière, venaient. Et après avoir séjourné à Barège, le duc de Montpensier se rend à Pau pour présider aux fêtes qui célèbrent l'inauguration de la statue de notre bon roi Henri IV.
Mais auparavant, le duc de Montpensier assiste à des fêtes données en son honneur à Luce et à Barège. Et bien voilà, nous sommes nous aussi invités à la fête. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Alain Bourneton est né à Aulus-les-Bains en 1942. Son amour pour les Pyrénées ne s'est jamais démenti. Il n'a cessé de parcourir des vallées, de gravir des sommets et d'écrire pour partager sa passion. Il a même retrouvé des textes écrits sur les Pyrénées au XIXe siècle, des textes inédits qu'il a regroupés dans un ouvrage intitulé « Voyages inédits dans les Pyrénées 1833-1859 ». Le passage retenu appartient à un manuscrit écrit lors d'un voyage accompli en 1843 par Alphonse Blaquière, qui était alors un adolescent âgé de 14 ans. Assurément, le plus jeune auteur présenté lors de ses chroniques. On ne s'étonnera pas, donc, qu'il se rende à Gavarnie avec son grand-père. Notre principale excursion fut à Gavarnie. Partis à 4 heures du matin, nous descendîmes à Luce où nous restâmes un moment pour faire prendre le signalement du cheval que me montait mon grand-père. Nous étions avec plusieurs agenais que nous avions rencontrés la veille et avec qui nous devions faire cette partie. Nous partîmes de Luce vers 5 heures, ayant été retardés par les gens de la douane qu'il avait fallu faire lever. Nous suivîmes la route de Saint-Sauveur jusqu'au pont et au lieu de le traverser, nous prîmes la rive droite du Gave. La route est assez belle, quoique n'ayant guère plus de 2 mètres de large. Elle a été faite il y a une vingtaine d'années dans les flancs du pic de Bergonce, jusqu'au passage de l'échelle. Là, on traverse le Gave sur un pont qui a deux arches, l'une au-dessus de l'autre. Une tour est située à l'entrée et en défendait jadis le passage aux Espagnols. Ici, la route se rétrécit et devient plus dangereuse. D'un côté, des montagnes très élevées, de l'autre, un torrent qui est très profond à cet endroit. Cette route vous conduit aussi jusqu'à Pranières, où l'on repasse sur la rive gauche du Gave. On arrive à Gèdre sans le voir. On entre par Gèdre dessus et l'on arrive au bureau de douane où il faut remettre le signalement de son cheval pour éviter que l'on introduise des chevaux en Espagne. En quittant Gèdre, l'on suit encore quelque temps la vallée. On aperçoit déjà le cirque. Le chemin tourne tout à coup et l'on se trouve dans le célèbre chaos. Spectacle affreusement beau, mais effrayant. C'est un éboulement immense qui a dû être occasionné par quelques révolutions souterraines. Pas un vestige de végétation, pas un être vivant. Quelques corbeaux troublent seuls le silence. On remarque un fer à cheval gravé sur un énorme caillou. Cette marque a été faite par le cheval du fameux Roland qui fit un saut de plus de 2 lieues. On parcourt les flancs du pic du Pain de Sucre qui suit le chaos. Aussitôt après ce pic, on traverse le Gave sur le pont de Gavarny et on entre dans le village. L'auberge est assez bien servie, mais tout est fort cher. Nous y fîmes un fort mauvais déjeuner à 2,50 francs par tête. Nous y trouvâmes plusieurs Espagnols qui portaient des denrées à barège. Peu de jours après, le prince, duc de Montpensier, arriva à barège. Il logeait dans la maison à côté de la nôtre. C'est un jeune homme d'une taille élevée, myope et blond. Il était accompagné d'un aide de camp du roi. Une compagnie de grenadiers venus de Pau faisait le service du village pendant le séjour du prince. Luce lui donna une fête qui attira une foule nombreuse et élégante de tous les termes environnants. Elle fut précédée par un banquet au château Sainte-Marie. Deux troupes de paysans, dont une déguisée et l'autre en grand costume de barégeois, dansaient autour du banquet. Après le repas, le prince descendit à Luce, où il assista à une course. Des amphithéâtres étaient préparés pour recevoir ceux qui voulaient payer. Les danseurs ne tardèrent pas à arriver. Les 40 chanteurs montagnards exécutèrent divers morceaux et les courses commencèrent d'abord par celles des chevaux de louage qui arrivèrent aussi vite que des limaçons. Ensuite, celles des ânes montées par des femmes en costume de béarnaise et en capulet. Et terminées par les courses d'hommes et la course au sac qui consiste à mettre plusieurs hommes dans des sacs jusqu'au cou. Et celui qui arrive au but sans tomber remporte le prix. Ensuite, par le mât de cocagne, ce fut un gamin qui remporta le prix. Il fit en outre une assez bonne recette en quêtant dans les tribunes. Le prince ne tarda pas à partir, accompagné de la garde barégeoise qui s'était formée lors de son arrivée à Barège et qui, avec un arc de triomphe que l'on avait élevé à l'entrée du village, étaient les seuls honneurs qu'on lui eût rendus. Il est vrai que la nuit était fort avancée lorsqu'il fit son entrée ayant dîné à Luce. Nous vîmes à sa suite depuis Luce le jour des courses. Nous avions pris des chevaux qui, vu la solennité, nous coûtèrent 3 francs chacun. Quelques jours avant l'arrivée du duc de Montpensier, il y avait eu des courses à Luce, mais fort insignifiantes. On oublie, en le lisant, que ce texte a été écrit par un adolescent de 14 ans qui séjourne dans les Pyrénées en compagnie de son grand-père. Car sont observés de façon remarquable les détails de la route et du paysage. Cet adolescent deviendra un grand architecte bordelais auquel sera confiée la restauration de plusieurs châteaux, dont celui de Saint-Thaon, qui était la propriété de Montesquieu. Le passage retenu a été écrit par Alphonse Blaquière. Il a été publié par les éditions Pyrégraphe dans un ouvrage intitulé « Voyages inédits dans les Pyrénées », ouvrage que nous devons à Alain Bourneton.
Et voilà un texte écrit par un tout jeune auteur. Il avait alors 14 ans quand il vient dans les Pyrénées en juillet 1843 et quand il écrit ce texte.
Apparemment, Philippe, pendant ce séjour, il contracte, comme disait Ludovic Gorier, une maladie incurable, le virus des Pyrénées, car Alphonse Blaquière va devenir ensuite un pyrénéiste.
Il sera même vice-président de la section sud-ouest du Club Alpin Français. En tant qu'architecte, il dresse d'ailleurs les plans de l'abri du Mont-Perdu, du refuge de Tucquerouille.
Et il séjourne dans les Pyrénées, en même temps que le duc de Montpensier, mais aussi en même temps que Victor Hugo. En 1843, on en a déjà parlé, Philippe, Victor Hugo suit une cure thermale à Cotterêts.
Et comme notre adolescent et son grand-père Victor Hugo mangent mal à l'auberge de Gavarnie, on dira pas le nom, hein,
oui.
Du lard rance, du pain dur et une mauvaise omelette.
Oui, c'est ce que Juliette Drouet note dans son journal et elle trouve en plus, comme le jeune adolescent, qu'ils ont payé bien cher.
Ah oui, ça j'imagine. La semaine prochaine, nous gravirons justement le pic du Midi d'Ossau avec le duc de Montpensier. Voilà, autre légende des Pyrénées, hein,
ce le pic du Midi d'Ossau,
qui, pour les Bernais, est plus haut que le pic du Midi
de Bigorre.
Mais nous, on dit toujours qu'avec la hauteur de l'antenne du pic du Midi, nous sommes plus hauts que celui-ci. Voilà, c'est toujours des petits matchs comme ça entre les Bernais et les Bigourdes. Merci beaucoup, Anne Lasserre. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Passione che ho per te, quando ti guardo penso che
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio en visite au Vatican ce jeudi. Il a été reçu par le pape Léon XIV.